7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et bonsoir, Michael Thébault.
Et bonsoir, Nicolas.
Pour commencer, Michael, une rencontre rare ce soir, rencontre avec l'un des plus prestigieux professeurs de droit de l'université de Harvard. J'ai nommé Lawrence Lessig.
Dit Larry Lessig, directeur, entre autres, à Harvard, du Centre de recherche sur la corruption, militant de l'Internet libre et surtout aujourd'hui activiste pro-démocratie. Alors le grand public français ne le connaît pas forcément, mais il est pourtant une véritable sommité mondiale, célébrissime aux États-Unis depuis plus de 20 ans, consulté par Bill Clinton, Barack Obama ou Bill Gates. On dit de lui qu'il est aussi redoutable que redouté. Dès 1993, le New York Times écrivait « Il ne fait pas la loi, il est la loi ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a été l'un des tout premiers aux États-Unis et donc au monde à s'intéresser à un nouvel outil appelé Internet. Et il s'est empressé de vouloir en garantir les libertés, toutes les libertés, en inventant le concept de licence libre. Lawrence Lessig est venu ici même à Inter nous en parler, propos traduits par Bart Abben. Écoutez.
À l'époque, je travaillais beaucoup sur le droit et la loi autour d'Internet. À l'époque, très peu de gens, finalement, savaient véritablement comment fonctionnait l'interaction entre la technologie et puis l'idéal de liberté, la démocratie dans Internet. Et à l'époque, je faisais partie d'un groupe de personnes qui commençaient à essayer de formuler des idées autour de ces thèmes. Et une réalité assez déprimante, finalement, c'est que nos craintes de l'époque, notamment à propos de l'évolution d'Internet, de la tournure que pourraient prendre les choses, eh bien, ces choses, beaucoup de ces choses sont devenues une réalité. C'est-à-dire qu'Internet est devenu, alors qu'à la base, c'était un endroit où on pouvait protéger la liberté et également la vie privée. C'est devenu l'inverse. C'est un endroit où la vie privée n'existe plus et où l'opportunité de liberté, d'expression est de plus en plus restreinte par des entreprises ou par les gouvernements.
Voilà, réflexion donc qui avait été faite pour la première fois il y a plus de 20 ans, imaginez. Et ce concept de licence libre lui a du coup valu aussitôt aux États-Unis le surnom de bête noire des dinosaures de la culture et du divertissement, de Microsoft à Disney. Et selon lui, eh bien c'est encore vrai aujourd'hui.
Je pense qu'il y a plusieurs combats. Je pense que le combat de la culture est peut-être celui qui est le plus simple à comprendre. C'est un combat que j'ai mené d'ailleurs en France également. J'ai été d'ailleurs invité au Festival d'Avignon et on m'a présenté comme un peu comme un radical, un peu fou, qui croyait qu'il était possible de partager librement la création. Et très souvent, les gens ont tendance à dire, mais c'est parce qu'il est contre la culture. Évidemment, c'est simplifier les choses. Ce que l'on voit dans le contexte d'Internet, par exemple, ce n'est pas un combat contre la culture, c'est un combat contre le contrôle commercial du développement et du partage du contenu culturel. Et ce qu'Internet a permis de faire, c'est effectivement de secouer un petit peu tout ça. Et je crois que les arguments d'il y a 20 ans sont encore très vrais aujourd'hui.
Et depuis près d'une dizaine d'années maintenant, Lawrence Lessig sillonne les États-Unis, la planète, en infatigable défenseur de la démocratie, démocratie qu'il juge partout en danger, et d'abord chez lui, a fortiori bien sûr depuis l'élection de Donald Trump, et à ses yeux, l'ennemi numéro un s'appelle la corruption.
Je dirais que dans toutes les grandes démocraties du monde, on a le sentiment que le système a failli. Et c'est assez inquiétant lorsque vous pensez à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, l'idée c'était de propager la démocratie puisque cela permettrait la paix et la prospérité, génération après génération. Et quelque part, je crois que nous avons failli. Nous sommes en situation d'échec. La situation dans mon pays est corrompu. Alors je ne parle pas simplement de pot de vin ou de corruption, mais corruption de manière fondamentale, de manière institutionnelle. Aux États-Unis, nous avons un système où entre 30 et 70% du temps passé par nos parlementaires est utilisé à lever des fonds pour leur campagne, à générer des tonnes d'argent. Donc c'est une toute petite fraction de l'Amérique qui discipline.
Mais vous avez tenté de faire évoluer justement cette loi. loi sur le financement politique, le financement des campagnes. Ça n'a pas marché, on ne vous a pas écouté, entendu.
Ah, le combat n'est pas terminé, celui-là ne l'est pas. Je crois que la lutte, cette lutte, est extrêmement importante pour l'Amérique. Ce n'est pas d'ailleurs un problème américano-américain. Seulement, qu'on parle du réchauffement de la planète, que l'on parle des dépenses astronomiques en matière de défense qui continuent aujourd'hui, encore une fois, aux États-Unis et dans d'autres pays, on ne pourra pas gérer ces problématiques si on ne gère pas la corruption d'abord.
Voilà, et dans ce qui ressemble pour l'instant, selon lui, à une impasse de la démocratie, eh bien, il y a une catégorie de citoyens dont le rôle est absolument fondamental. Ce sont les lanceurs d'alerte, dont un en particulier, Edward Snowden, qu'il a même fait intervenir en direct à Harvard par téléconférence depuis son exil forcé en Russie. Alors, que représente-t-il à ses yeux ? Réponse.
Il joue un rôle extrêmement important. Et je crois que les sociétés libres l'ont bien compris. Lorsque vous pensez à ces lanceurs d'alerte, il en existe de nombreux. Certains d'ailleurs peuvent être critiqués, mais d'autres, comme Edward Snowden, méritent tout notre respect. Il paie aujourd'hui très cher ses positions, son choix qui a été celui de rendre l'information publique. Le gouvernement américain s'était lancé dans une opération d'espionnage. De chacun, nous, personne n'était au courant. Edward Snowden a rendu cela public. D'aucuns vous diront, Snowden n'a rien fait. Snowden n'a rien changé. Le fait est qu'il y a eu d'énormes décisions, notamment dans les tribunaux américains, à propos de la surveillance et de l'anticonstitutionnalité de ces surveillances et de ces travaux d'espionnage menés par les autorités américaines. Et c'est ainsi que le changement se produit. Le gagnant, évidemment, on ne va pas lui donner la reconnaissance. Mais le fait est qu'il y a eu des conséquences profondes pour les États-Unis.
Et Lawrence Lessig s'est d'ailleurs récemment rendu en Russie pour rencontrer Edward Snowden. Rencontre évidemment clandestine, mais filmée par la réalisatrice Flore Vasseur, qui en a fait un formidable documentaire, Mythic Snowden, c'est le titre. Un film qui sera diffusé demain soir sur Arte à 23h30.
Et comme chaque mercredi, Michael, place maintenant à l'actu européenne.
Avec, comme toujours, notre Quentin Dickinson national, pas en direct de Bruxelles, mais de Strasbourg aujourd'hui, où siège toute la semaine le Parlement européen. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Michael, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, Quentin, vous avez déterré pour nous un casse-tête de plus pour les négociateurs du Brexit.
Oui, le Service national britannique de santé, fleuron admiré du premier gouvernement travailliste après la dernière guerre mondiale, est en pleine déconfiture depuis le début des années 2000. Les coupes budgétaires successives infligées par les gouvernements conservateurs, ainsi que le manque de personnel qualifié, dont le déficit en infirmiers est évalué actuellement à près de 30 000 personnes, conduisent au quotidien à une situation chaotique dans les hôpitaux et dispensaires. Heureusement, il y a le renfort des professionnels de la santé venus des autres pays européens. Actuellement, ils sont environ 50 000 à être partis outre-Manche, dont 20 000 médecins, infirmiers et infirmières. Mais voilà, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne mettra fin à sa participation au marché unique de l'UE et donc à la liberté de circulation des personnes et à leur droit de s'installer en Angleterre. Le sort des ressortissants européens déjà établis au Royaume-Uni est donc particulièrement incertain et depuis le référendum du 23 juin 2016, les jeunes professionnels et artisans français, allemands ou autres hésitent à s'expatrier au Royaume-Uni.
Et du coup, quelle incidence pour ce Service national de santé ?
L'incidence, elle est tout simplement catastrophique. Par rapport au nombre d'infirmiers et d'infirmières recrutés tous les mois il y a un an, avant le référendum Brexit, on enregistre désormais une chute de 96%, une chute, vous avez bien entendu, de 96% des Européens candidats aux professions médicales au Royaume-Uni. Voilà, c'était donc un coup de projecteur sur une situation de crise engendrée par le Brexit, situation totalement prévisible et dont il n'aura cependant jamais été question au cours de la campagne du référendum l'année dernière.
Mais on en parle grâce à vous, Quentin Dickinson. Merci, en direct du Parlement européen à Strasbourg.
Pour finir, Michael, direction la Chine où la folie impressionniste continue.
Ah oui, les Chinois, on le sait, raffolent des peintres impressionnistes et depuis quelques jours, le tout Pékin se presse à une exposition inédite. Inédite puisque le musée de Saint-Étienne, deuxième musée français d'art moderne et contemporain, se déplace pour la première fois dans la capitale chinoise. Et attention, chef-d'œuvre au rendez-vous. Reportage à Pékin signé Dominique André.
Monet, Courbet, Matisse, Soulages, Dubuffet, le musée de Saint-Étienne a transporté à Pékin quelques-uns de ses chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire de la peinture française depuis 1800. Mais pour accéder aux tableaux vedettes des riches collections du musée, il faut s'armer de patience, surtout quand il s'agit des nymphéas de Monet, le fondateur de l'impressionnisme. Yin Xuan, une passionnée du peintre français, a fait des photos des nymphéas observées par Monet dans le bassin de sa propriété en 1907. Elle les a postées aussitôt sur WeChat, le réseau social le plus populaire en Chine.
On adore l'art français. Depuis longtemps, en fait, on commence à savoir comment admirer les tableaux. Et les Chinois fréquentent beaucoup le musée du Louvre et les autres musées. Donc on connaît déjà un peu les tableaux de ces grands artistes. On connaît Monet, qui est un peintre très connu dans le monde entier. C'est aussi un tableau, je crois, qui est représentatif pour l'artiste lui-même. À Paris, il y a une maison de Monet qui n'est pas très loin de Paris. On est déjà allé, comme moi, je suis déjà allé à sa maison, son jardin. Pour le public chinois, c'est plutôt le nom de Monet qui attire d'abord leur attention. Après, quand on regarde le tableau, c'est plutôt les fleurs.
Pourquoi les Chinois se passionnent-ils pour les impressionnistes ? Dans le public se trouvait un amoureux de la culture française, Dong Tiang, directeur du département français de Beida, la plus ancienne université de Pékin.
Les Chinois aiment beaucoup les impressionnistes parce qu'il y a un côté art de vivre, la paix, le bonheur. Et ça, ça touche les Chinois et ça rejoint, je dirais même, l'esprit chinois. Parce que dans notre poésie, y compris dans notre peinture, c'est ce contact avec la nature. Les impressionnistes, c'est un peu pour les Chinois, c'est avant qu'il y ait une arrivée en masse de la société, de l'industrie, où l'homme peut encore garder, si on peut dire, une certaine harmonie avec la nature.
51 œuvres sont exposées, dont l'incontournable Picasso. Martine Danser-Mourès, directrice du musée de Saint-Étienne, a voulu exposer cet artiste espagnol, mais très important en France, car il permet au public chinois de découvrir l'histoire de la rencontre du maître avec le musée français.
Picasso, c'est un artiste qui est effectivement extrêmement important en France. Mais pourquoi aussi il est très important pour nous ? Parce que Picasso, en 45, deux élus de la ville de Saint-Étienne avaient demandé, pour le musée qui allait rouvrir après la guerre, ils avaient demandé à Picasso, comme il était un artiste qui incarnait la résistance, si en fait Picasso voulait bien donner un tableau. Et Picasso a été très généreux, il a offert ce tableau. Et pour nous, c'est une sorte de Joconde, c'est-à-dire que c'est une sorte de tableau qui ouvre le futur du musée. On ne pouvait pas penser en 1945 que le musée allait devenir le second musée d'art moderne et contemporain en France. Et en fait, il y a quelques œuvres qui sont emblématiques parce qu'elles racontent aussi l'histoire de nos collections. Et l'histoire de collections, c'est toujours assez fabuleux.
De grandes précautions ont été prises pour protéger les œuvres venues par avion dans des caisses climatisées. Après Pékin, la collection s'envolera pour Chengdu et Wuhan dans le sud de la Chine.
Et ce tableau emblématique de Pablo Picasso, peint en 1944, s'intitule « Nature morte, peau, vert et orange ». À demain.
À demain, Michael.